Donc je suis Samuel Olivier, je suis responsable de la louange dans l'église de Protestante Unie de Paris-Belleville depuis 5 ans maintenant. C'est une église que j'ai rejoint il y a une dizaine d'années et bien sûr je vous transmets toutes ces salutations. Et aussi du pasteur Serge Jacquemus, des responsables, des anciens. Et c'est un privilège d'être avec vous, en tout cas ce matin. Je racontais hier à Samuel Hubert, puisque j'étais avec l'équipe de louanges hier après-midi, que je suis venu dans cette église il y a très longtemps. C'était déjà il y a peut-être 10-11 ans à peu près. Je faisais partie à l'époque, j'étais adolescent, je faisais partie des fabricants de joie. Et cette église a hébergé plusieurs week-ends des fabricants de joie. Je ne sais pas si vous connaissez les fabricants de joie, non ? Ça va. C'est un ministère du coup qui dépend de Jeunesse en Mission pour les enfants, les adolescents, pour leur permettre de vivre une rencontre avec Dieu et puis d'avancer dès leur plus jeune âge dans leur relation à Dieu. Et du coup, j'ai des bons souvenirs dans cette église parce que je me souviens en particulier d'un week-end qu'on avait eu avec Patrick Fontaine. Et du coup, j'avais montré à Samuel hier, je lui disais que le coin à peu près là, en fait, c'était là où je m'étais agenouillé et où j'avais vécu un moment fort avec Dieu il y a plus d'une dizaine d'années. Donc c'était émouvant. Et puis de tout à l'heure, pendant la louange, en fait, je me rappelais, ce que j'avais vécu avec Dieu en fait à ce moment-là. C'est rigolo. Donc plaisir d'être avec vous, plaisir d'être avec l'équipe de louange hier. Donc j'étais invité pour intervenir sur le thème de la louange prophétique. Donc c'est quelque chose que je développe pas mal au niveau de mon église locale et puis un peu plus largement autour depuis quelques années. Donc on a eu l'occasion de partager autour de ça, de faire connaissance un petit peu, et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'approfondir un petit peu ce qu'on a pu voir. Et ce matin, je voulais partager avec vous un petit peu justement sur la première marche, la première base un petit peu de la louange prophétique, de la prophétie en général. Je disais hier, la prophétie, c'est un mot qui fait un peu peur parce que ça a été peut-être des fois mal utilisé. C'est quelque chose aussi qui fait peur parce que y a des gens que ça a pu détruire, à qui ça a pu faire du mal. Mais la Bible nous donne beaucoup de conseils, elle nous donne beaucoup de manières de faire pour que ça se passe bien et que ce soit quelque chose qui puisse nous aider à progresser et qui puisse nous aider à grandir à la ressemblance de Christ. Et ce matin, du coup, mon thème, c'était le fait justement d'écouter la voix de Dieu. Comment écouter la voix de Dieu ? Et c'est la première base. Et hier, je posais la question à l'équipe de louange et je leur demandais un petit peu quelle était leur définition de la louange. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, quoi. Donc, il y avait des bonnes choses. Il y a quelqu'un qui disait que c'était un mode de vie. J'avais plusieurs réponses. Et moi, il y a une réponse que j'aime bien qui a été donnée par Fabienne Ponce, avec qui je travaille régulièrement, qui est pasteur à Toulouse. Et elle disait la louange pour elle, c'est l'expression de quelqu'un qui sait être en communion avec Dieu. C'est l'expression normale de quelqu'un qui vit en communion avec Dieu. Et finalement, c'est pour ça que le fait d'écouter et d'apprendre à écouter la voix de Dieu, ça a tout à voir avec la louange, parce que la louange, c'est pas juste les chants qu'on peut chanter ensemble le dimanche matin. La louange, c'est l'ensemble, l'expression de toute notre vie, quand nous savons que nous sommes en relation avec Dieu, quand nous vivons dans cette relation avec lui. Et je voulais commencer en lisant un petit texte qui m'a frappé la semaine dernière, d'une manière nouvelle, auquel j'avais pas trop fait attention. C'est un texte qui se situe dans le chapitre 10 de Luc, au verset 38. Alors, si vous avez vos Bibles, on va le lire ensemble. Donc, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider !» Et le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et moi, je me souviens de ma mère qui n'aimait pas trop ce texte, parce que justement, elle disait, mais oui, mais Marthe et tout ça, alors qu'elle faisait, je veux dire, elle se mettait en quatre, parce qu'il y avait Jésus qui venait chez elle, quoi. C'était quand même pas rien. Elle voulait l'honorer, elle voulait faire qu'il se sente bien, qu'il se sente accueilli. Elle voulait qu'il mange bien, elle voulait que voilà que ce soit un lieu agréable pour Jésus, quoi. Et puis elle est pas reconnue à sa juste valeur, puis ça faisait beaucoup râler ma mère. Et c'est vrai que j'ai entendu souvent des gens qui disaient oui, bon, c'est vrai, mais en même temps, Marie, elle est un petit peu paresseuse, et il faut bien aussi qu'il y ait des Marthe qui faudrait se tourner la maison pendant que Marie elle écoute. Et ça m'a frappé en redécouvrant ce texte récemment qu'en fait Jésus ne prend pas du tout ce pli-là, à notre grand regret et puis à notre agacement profond. Il va dire une seule chose est nécessaire. Et pourtant, on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de choses qui nécessitent notre travail, qui pourraient nous appeler. Et pourtant, Jésus va dire non, il y a une seule chose qui est nécessaire. Nécessaire, c'est-à-dire c'est une seule chose dont on a besoin. Le reste, c'est du superflu, c'est du bonus. Et pour être sûr qu'on ait bien compris, qu'on se trompe pas sur quelle chose est nécessaire, il va dire c'est Marie qui a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Donc ce matin, j'ai envie de vous parler de cette chose nécessaire, qui est de se tenir au pied de Jésus et de l'écouter. Alors, si on regarde dans le chapitre 1 du premier de Jean, au verset 1. Alors je vais citer beaucoup de textes, je vais les lire, on va peut-être pas toujours les chercher parce que sinon ça va nous faire perdre du temps. Mais moi j'aime bien en fait citer les références et puis donner en fait un cadre qui soit biblique. Parce que c'est bien d'enseigner et de parler, c'est bien aussi de mettre ça en relation avec ce que la Bible en dit concrètement. Donc Jean chapitre 1 verset 1 nous dit « Au commencement était la parole ». Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quelqu'un qui n'aurait pas d'arrière-plan chrétien particulier, s'il lisait ce texte, il pourrait se dire, la conclusion la plus naturelle qu'il pourrait se dire, c'est que si Dieu existe, sa nature, c'est de parler, c'est de communiquer. Parce que ce texte dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Si la parole et Dieu, c'est la même chose, ça veut dire que c'est dans sa nature de parler, de communiquer. Et on voit que c'est pas juste pour communiquer ou pour donner un message, puisque dans le chapitre 1 de la Genèse, que vous connaissez très bien, le chapitre de la création, on voit que quand Dieu va créer l'univers entier, le soleil, la lune, les animaux, nous défendre un petit peu l'image, comme si Dieu y prenait des choses, et puis commençait à peindre un petit peu les couchers de soleil, etc. et tout. Le premier chapitre de la Genèse nous dit pas ça, il nous dit Dieu parle, et la chose arrive. Finalement, Dieu crée en parlant. Hein, par exemple, au verset 3, il va dire « Dieu dit que la lumière soit et la lumière est ». Parce que cette parole de Dieu, elle est créatrice, elle est puissante, elle a un effet immédiat. Hein. Il y a ce verset qui dit que la parole de Dieu revient jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Et là, on voit que quand Dieu parle, c'est toujours suivi d'effet. C'est toujours quelque chose qui crée, qui a une conséquence. C'est une grosse différence avec nous, hein. Je sais pas vous, mais moi en général, quand je dis quelque chose et quand ce que je fais et ce que je dis sont souvent séparés, quoi. Quand je dis t'inquiète pas, je vais être à l'heure, voilà, je peux bien blâmer le métro, tout ça, etc. et tout. Finalement, entre ce que je dis que je vais faire et ce que je fais, il y a une différence. Et c'est vrai que c'est un peu comme si ma parole à moi était faible par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle a ce corps, cette assurance. On peut lui faire confiance parce qu'il y a une conséquence immédiate. Il y a une relation directe entre ce que Dieu dit et ce qu'il fait. Chapitre 1 des Hébreux, un passage que j'aime beaucoup, justement, qui parle de la parole de Dieu, qui nous dit que dans les temps anciens, Dieu a parlé à ses serviteurs par les prophètes. Il a parlé par les prophètes. Et dans les derniers temps, il nous a parlé par Jésus. Par son fils. Et au verset 3, il dit Jésus qui soutient toute chose par sa parole puissante. Alors, j'ai pas de truc avec lequel je peux le faire sous la main, mais ce que j'aime bien faire, du coup, quand je lis ce verset, c'est prendre un objet que j'ai sous la main, ma Bible, par exemple. Des fois, c'est un peu choquant pour certaines familles d'église, mais donc je le tiens comme ça, et puis je dis, mais là, je soutiens, en fait, cet objet, et si j'arrête de le soutenir, et puis je le laisse tomber, bah, du coup, il tombe, quoi. Et quand la lettre aux Hébreux nous dit que Jésus soutient toute chose par sa parole puissante, ce qu'elle nous dit, c'est que si Jésus arrête de parler, tout s'écroule, quoi. Des fois, on a un peu cette vision du monde comme si Dieu avait lancé la machine et puis qu'il était parti prendre un café ou faire autre chose et puis qu'il avait laissé un peu la chose s'emballer. Mais finalement, ce que ce texte nous dit, c'est que encore aujourd'hui, si le monde continue, si ce que vous voyez autour de vous existe, si nos vies continuent, si je peux respirer et prendre de l'air dans les prochaines secondes, bah c'est la conséquence du fait que Dieu est encore en train de parler aujourd'hui. Et que finalement, cette œuvre de création qu'il a commencée dans la Genèse, il la poursuit aujourd'hui, il la continue et il la porte à son achèvement. Dans une relation normale, pour que je puisse vraiment être en relation avec quelqu'un, il faut qu'il y ait un échange. Si ça va que dans un seul sens, ça marche pas. Dans une relation d'amitié, dans une relation de couple, quelle que soit la relation, il faut qu'il y ait un moment où je parle et la personne en face écoute, et un moment où la personne en face me parle et où je l'écoute. Et avec Dieu, c'est pareil, c'est-à-dire que dans la relation idéale que je peux avoir avec lui, Dieu me parle et je l'écoute, et je parle à Dieu et il m'écoute. C'est ce qu'on appelle la prière. Et il y a un souci, c'est cette dimension du péché qui vient comme obscurcir en fait cette relation entre Dieu et moi. Le péché, c'est avoir plusieurs conséquences. C'est comme si ça rendait mon cœur sourd. C'est-à-dire que Dieu me parle, mais le péché en moi en fait vient comme mettre un petit peu un casque et m'empêcher de discerner ce que Dieu est en train de dire. Et inversement, la Bible nous dit que le péché aussi empêche Dieu de nous écouter. Donc on voit les nombreux textes dans l'Ancien Testament où Dieu dit mais je peux pas écouter ce que tu dis parce que je vois tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli de mal, et comme je suis un Dieu juste et saint, je peux pas écouter ce que tu dis, quoi. Et heureusement, il y a cette dimension de la croix qui vient, il y a le sacrifice de Jésus qui rétablit en fait cette relation qui était perdue avec Dieu. Et le problème du péché, tant le problème des péchés que j'ai commis, que cette nature de péché qui est à l'intérieur de moi, est réglée à la croix, et cette relation qui était brisée est rétablie. C'est le sens, ce que dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 4, l'auteur de cette lettre va nous dire, que le voile est déchiré, que je peux venir devant le trône de Dieu avec assurance, parce que au travers du sacrifice de Jésus, au travers du sang de Jésus, j'ai la légitimité de reprendre cette relation avec Dieu, où je parle à Dieu et il m'écoute, et où Dieu me parle et je l'écoute aussi. Ça peut paraître basique, mais c'est quelque chose que finalement, même si on y croit, on a tendance à oublier que c'est un état de fait. Moi le premier, quand j'arrive le dimanche, ou quand je sais pas une période de ma vie, ou voilà, où je suis super consacré spirituel, etc., ben, je vais plutôt me conduire comme quelqu'un qui serait encore sous cette coupe du péché, qui serait encore séparé de Dieu, alors que ce que la parole de Dieu me dit, ce que la Bible me dit, ce que Jésus a accompli est suffisant. Et si je me place au bénéfice de ce que Christ a accompli, eh ben c'est suffisant pour que cette relation avec Dieu, elle continue. Et c'est pas le péché qui peut empêcher que cette chose soit vraie. Mon rôle à moi, c'est de remettre tout ça à la croix. Mais même quand je le sens pas, même quand je me sens pas à la hauteur, même quand j'ai l'impression d'être très très bas, ça reste vrai. Le sacrifice de Jésus est toujours efficace et je peux toujours vivre dans cette relation et entendre ce que Dieu a à me dire. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on n'entend pas Dieu aussi souvent qu'on voudrait? Il y a un verset dans le chapitre 33 de Job, au verset 14, qui explique la chose un petit peu. C'est vrai que c'est facile, quand je parle avec quelqu'un, je sais qu'il va parler dans la même langue que moi, qui va émettre des sons, et donc je sais comment ça va se passer. Et pourtant, il y a plein de choses aussi qu'on peut manquer dans une relation avec quelqu'un, parce qu'il y a plein de choses qui sont pas juste des mots que la personne va prononcer, il y a son attitude corporelle, il y a les choses qu'elle veut dire derrière ce qu'elle est en train de me dire avec des mots, donc il y a tout un ensemble aussi de choses que je peux manquer en parlant avec quelqu'un, quoi. Et avec Dieu, c'est pareil, ce verset de Job, il nous dit que Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Et moi, j'aime bien observer les couples. J'aime beaucoup observer les couples jeunes ou vieux autour de moi. Puis j'aime bien justement voir comment ça se passe dans leur relation. Puis c'est vrai que c'est drôle des fois d'observer qu'il y en a un qui, voilà, qui parle à l'autre et puis de voir que l'autre il est en mode off en fait. Que il a mis le répondeur et puis voilà, il acquiesce régulièrement ou il fait un oui oui etc. Mais on voit que finalement ça fait voilà, ça lui fait plutôt de la musique autour, mais qu'il est pas vraiment dans l'échange, dans la relation avec l'autre. Et avec Dieu en fait c'est pareil, c'est-à-dire qu'on peut parler avec quelqu'un. On peut dire quelque chose à quelqu'un sans que celui-ci nous entende finalement. Il va entendre plus ou moins le bruit qu'on fait, mais il va pas mettre son cœur à écouter ce qu'on est en train de dire. Et avec Dieu, c'est pareil, c'est-à-dire que Dieu parle tout le temps, c'est dans sa nature, et il essaie de nous parler aussi tout le temps, mais c'est rare les moments où on va faire attention particulièrement à ce qu'il est en train de nous dire. Moi, j'aime bien... l'image de, vous savez, les vieux postes radio que j'avais quand j'étais gamin, et puis où fallait tourner le bouton pour trouver la bonne fréquence, et puis des fois ça marchait pas, alors fallait tirer en fait l'antenne, et puis il fallait la tourner plus ou moins, ou des fois moi ce que j'aimais bien aussi c'est quand je posais ma main dessus ça marchait, et sauf que là j'étais embêté parce que moi si je mettais la radio c'était pour faire autre chose, et donc voilà, il fallait trouver un moyen de bidouiller pour que l'antenne soit dans la bonne direction et qu'elle puisse capter le signal avec clarté. Et des fois, en fait, on n'entend pas ce que Dieu nous dit parce qu'on a oublié de sortir nos antennes et on a oublié de mettre notre radio sur on. Et ça demande, en fait, une attitude de cœur et puis un travail dans le quotidien de dire, ben, Seigneur, ça me suffit pas de t'entendre juste quelques minutes le dimanche matin ou quand tout d'un coup je me sens bien que j'ai envie de prendre un temps et de lire ma Bible, etc. J'ai envie que ça devienne quelque chose de quotidien. J'ai envie que ça devienne une relation, en fait, au jour le jour. Et je veux pas juste être quelqu'un qui a entendu parler de toi, je veux être quelqu'un qui t'écoute. Et je veux être comme Marie, prendre cette meilleure part. Et on remarque hein, que dans l'histoire de Marthe et Marie qu'on a lu au début, il n'y a pas de condamnation en fait de la part de Jésus quand il parle à Marthe. Hein, il lui dit pas « mais t'as rien compris », etc. Il lui dit juste « tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses ». Et il y a plutôt une espèce de... voilà, de soucis, de volonté de prendre soin de Marthe, en fait, de la part de Jésus, de lui dire, mais en fait, si tu t'occupais de la seule chose importante, tout le reste, en fait, prendrait sa place derrière. Alors, j'ai essayé de faire une petite liste des moyens par lesquels Dieu parle. Une liste non exhaustive, mais voilà, j'ai essayé d'avoir déjà un petit peu... voilà, je sais pas si vous avez une idée, par quel moyen est-ce que Dieu peut parler ? Par des songes, c'est pas le premier que j'aurais pris, mais c'est vrai. Par la création, très bien. La Bible, ça c'est un bon point pour... Par la souffrance, oui. C'est bien fait. Par les autres, point intéressant, c'est pas le point qu'on préfère, mais ça arrive aussi, ouais. Allez, je fais la petite liste un petit peu que j'avais fait, donc j'avais dit par la Bible. Il y a plusieurs versets qui en parlent. Moi, j'aime bien 2 Timothée 3:16 qui nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, redresser, corriger, réfuter et apprendre à l'homme à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Par la création, par ce qu'il a fait. Par exemple, le psaume 8 nous dit « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre », qui décrit ensuite, il dit « Mais la lune, les étoiles que tu as créées par la bouche des enfants, tu as suscité la louange ». Donc des fois en fait juste le fait de surtout nous en tant que enfin je sais pas vous mais moi en tant que citadin profond des fois juste c'est vrai d'aller faire un petit tour dans la forêt où ça me calme un petit peu. J'aime bien cette histoire une fois le Seigneur m'a parlé avec un escargot. J'avais trouvé un escargot devant chez moi. Et alors donc bon, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris mais je l'ai fait rentrer tout ça, je lui ai mis des épluchures de carottes tout ça. Et donc j'avais mis dans une caisse et en fait dès que donc pourtant il avait des épluchures de carottes tout ça c'était des... là il avait de quoi faire mais il passait son temps à vouloir sortir de la caisse et essayer de se barrer à la manière d'un escargot, c'est-à-dire que ça prenait du temps. Mais on sentait bien, c'était un petit escargot tout jeune, on sentait bien son obstination pour essayer de sortir et de retourner à l'air libre. Et puis je l'ai bon ben moi je voilà je, quand l'après-midi je le trouvais 3 mètres plus loin ben je le remettais dans sa caisse et puis au bout de 2-3 jours en fait je me suis rendu compte donc qu'il restait dans sa caisse finalement mais il bougeait plus, il était tout il avait l'air déprimé l'escargot. Et du coup en fait je me suis dit mais en fait le pauvre petit escargot il est fait pour vivre au grand air quoi, même s'il est plus à l'abri dans la caisse, même s'il est voilà, même s'il est plus à même de se faire manger par un oiseau ou par je ne sais quoi dehors, il est fait pour vivre dehors en fait. Dans la caisse, il a beau avoir des belles épluchures, il s'en fout. Et finalement, si je le laisse là, il va dépérir quoi. Et le Seigneur m'a parlé à ce moment-là. Donc du coup, ça, à force, moi j'aime bien du coup, mais souvent quand Dieu il me parle, je comprends pas trop en fait. Donc là, c'est pareil, l'histoire de l'escargot, je sentais que j'avais un truc à comprendre, je savais pas. Et quand j'ai capté en fait le fait que, ah oui, l'escargot, il est fait pour vivre dehors, le Seigneur il m'a dit, mais en fait, c'est une histoire que j'aimerais que tu racontes à telle personne que tu connais. Je fais, bon, d'accord. Et ben oui, c'est pas grave, je veux dire, les gens, ils ont l'habitude que je fasse, voilà, que je raconte. Donc j'ai appelé la personne, et puis je lui ai dit, écoute, j'ai l'impression que je devrais te parler de l'histoire de mon petit escargot. Et puis en fait, oui, ça a été quelque chose. Voilà, je lui ai dit à la fin, je dis, écoute, je pense que le Seigneur te dit que tu penses que tu pourrais être beaucoup plus à l'abri en restant chez toi, en fermant les volets, en machin, etc. Mais le Seigneur, il t'a fait pour être à l'extérieur. C'est plus dangereux, mais c'est là où le Seigneur a voulu que tu sois, et c'est lui qui prend soin ensuite de toi et qui te protège. Et ça correspondait à une situation qu'elle était en train de vivre, et donc c'était un encouragement pour elle. En 3, j'avais mis le Saint-Esprit en nous. Alors c'est pas un ordre de priorité, je crois que le Saint-Esprit c'est vraiment comme la lettre aux Corinthiens nous dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit c'est vraiment cet ambassadeur de Dieu, cet agent secret à l'intérieur un peu qui vient rendre tout ce que Jésus a accompli réel à l'intérieur de nous. Et finalement, quand on entend la voix de Dieu souvent, c'est pas quelque chose qui va venir de l'extérieur, c'est souvent quelque chose qui va venir de l'intérieur. Et c'est cette présence divine à l'intérieur de nous qui va parler à nos cœurs. Et c'est pas une voix souvent qui s'impose, c'est plutôt une voix qui est douce. Hein. Il y a ce passage qui dit que voilà que la présence de Dieu est pas dans la tempête, et dans le feu, etc., mais dans ce son du silence un petit peu. Et c'est un apprentissage hein, d'apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. J'avais noté notre conscience dans Romains au chapitre 2. En fait, Paul nous dit que s'il y a cette conscience qui est à l'intérieur de nous, même chez ceux qui ne partagent pas notre foi, il y a c'est un peu comme ce fil à plomb qui nous donne en fait une voilà qui nous dit mais ça c'est bon et ça c'est mauvais. Et puis on peut faire taire cette conscience, on peut essayer de l'étouffer, mais c'est un peu comme si Dieu avait mis un petit peu cette balance à l'intérieur de nous pour dire attention, là tu es du mauvais côté. C'est arrivé dans la Bible, ça arrive des fois encore aujourd'hui que Dieu parle par une voix audible. C'est arrivé à mon illustre homonyme dans l'Ancien Testament quand il était tout jeune garçon. Par la voix des autres, ça je trouve c'est vraiment fort, et c'est vraiment le sens de l'Église aussi, que Dieu va pas nous parler juste à nous personnellement, sinon on n'aurait plus besoin de nos frères et sœurs, on n'aurait plus besoin de former une communauté finalement, si Dieu nous parlait directement tout le temps. Et des fois il va prendre le parti de nous parler au travers des gens qui sont autour de nous. Et des fois il va le faire à leur insu, ce qui est encore plus drôle. Moi, je me souviens d'une fois où j'étais dans le métro, et puis j'étais en train de, dans ma tête, c'est justement de pas trop écouter ce que la personne à côté de moi est en train de dire, mais je disais Seigneur et tout, je posais des questions vraiment, qui me tenaient à cœur à Dieu. Et puis d'un coup, la personne à côté de moi dit quelque chose, et là, je le prends par le, par le veston, et je dis, quoi, qu'est-ce que tu viens de dire? Répète! Et puis, en fait, c'était une réponse à ce que j'étais en train de dire à Dieu, mais la personne n'en avait aucunement conscience, quoi. Donc c'est des fois on se fait saisir comme ça et surprendre. C'est arrivé dans la Bible par des anges aussi, c'est encore maintenant des fois, ça arrive. Et les anges, c'est pas la peine d'en faire tout un fromage, c'est juste les messagers, les serviteurs de Dieu. Donc ils font ce que Dieu leur demande. Des fois ils donnent des messages, un peu comme Gabriel va aller voir Marie. Des images, des visions, des songes, ça arrive et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Des fois on peut penser que c'est quelque chose qui est plutôt d'avant, quand ils n'avaient pas le Saint-Esprit, tout ça. Mais encore aujourd'hui, le Seigneur parle par des images, par des visions, par des songes. Et c'est important, en fait, voilà, d'être disponible et puis de pouvoir recevoir un petit peu les choses. Il y a des saisons aussi un petit peu. Moi, je sais que ça fait un an et demi que le Seigneur me parle souvent par des rêves, où je me réveille et puis j'ai fait un rêve et je me souviens de tous les détails. Et je sais dans mon cœur que le Seigneur veut me dire quelque chose. Et en général, c'est pas clair du tout. C'est la différence un petit peu entre Paul qui va voir le Macédonien qui lui dit viens nous voir en Macédoine, c'est super clair, on peut pas se tromper quoi. Moi en général ça me fait plutôt casser la tête et puis je dis Seigneur si tu veux vraiment me dire quelque chose il va falloir que tu t'expliques parce que là c'est pas clair. Mais en même temps en fait du coup ça m'oblige à me confronter un petit peu à ça, à dire ok il y a quelque chose pour moi mais c'est pas évident mais je veux aller le chercher, je veux aller trouver en fait ce que Dieu est en train d'essayer de me dire. J'ai été surpris souvent de voir comment Dieu il sait communiquer avec nous dans la langue qu'on connaît. C'est-à-dire que même quand je comprends pas, quand je prends le temps de dire Seigneur, ok, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est comme si un peu s'il y avait cette petite lumière rouge qui disait, oh là, sois attentif, j'ai quelque chose pour toi. Et là, du coup, il a éveillé mon attention et il peut me dire en fait ce qu'il avait envie de me dire parce que j'ai compris que c'était important et qu'il fallait que j'écoute. Il nous parle par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des paraboles. Comme l'escargot, c'était une belle parabole, dans la Bible, et puis aussi des fois il y a des circonstances, des histoires, des choses qui nous arrivent, qui racontent quelque chose, qui transmettent un message de la part de Dieu pour nous. On disait par la souffrance tout à l'heure, c'est pas la partie qu'on préfère, et en même temps ben c'est fort de voir que dans, c'était C.S. Lewis qui disait que la souffrance était un peu le mégaphone de Dieu, je crois, et c'est fou de voir que Dieu va utiliser toutes les situations de nos vies en fait pour pouvoir communiquer avec nous. Et c'est vrai que des fois la souffrance, ça nous aide juste à être un peu plus attentifs, parce qu'on a tendance un petit peu à fermer nos oreilles, à fermer nos cœurs quand tout se passe bien pour nous. Par la solitude, des fois, dans Osée au chapitre 2 au verset 16, Dieu a dit en parlant d'Israël, je vais l'emmener au désert puis je vais parler à son cœur. Des fois il le fait avec nous aussi, hein. On se retrouve un peu à l'écart, on ne sait pas trop ce qui se passe, et c'est des moments que Dieu va utiliser pour communiquer avec nous. Dans le silence, hein, il y a des silences qui sont pas vides, hein, qui sont pesants de la présence de Dieu et de ce que Dieu est en train de nous dire. Et puis, pour finir cette petite liste pas exhaustive, par la radio, ça arrive des fois en vrai, c'est un petit épisode que j'ai vécu quand j'étais adolescent, et donc à l'époque où j'étais adolescent, mon père m'énervait prodigieusement à certains moments, et donc là j'étais fâché contre lui, comme souvent. Et donc je mettais mon petit Walkman, vous savez, à l'époque on n'avait pas de téléphone, tout ça et tout, on avait des gros trucs avec cassettes, et j'avais la position radio, donc j'avais mis la radio, puis c'était une radio qu'il faut pas écouter, qui passe beaucoup de rap et beaucoup de trucs assez violents et tout, puis c'était un peu ma crise d'adolescent chrétien, c'était d'écouter cette radio-là. Et du coup j'écoute, et puis donc il y avait une chanson de rap d'un groupe assez connu à l'époque, et le truc c'est que c'était une chanson justement qui parlait de comment il fallait respecter son père, que c'était lui qui t'avait... Et du coup, j'écoute la chanson et vraiment, je dis, fâché, je me truc. Et là, je sens le Seigneur qui me dit, tu vois, même eux, ils te le disent, quoi. Du coup, je vais pardonner à mon père ce jour-là, quoi. C'est des petits. Comme quoi, des fois, Dieu va nous parler dans les choses importantes, dans les choses moins importantes. Mais si on prend ce pli un petit peu de sortir justement de nos antennes et puis de se brancher sur sa fréquence. La vie en fait va se transformer aussi en une aventure de chaque jour, de chaque instant, parce que on ne sait pas quand est-ce que Dieu va nous communiquer quelque chose, nous dire quelque chose. Ça va rendre nos vies aussi passionnantes, parce que du coup en fait on n'est plus en train de vivre l'histoire des autres personnes qui connaissent Dieu, on est en train de vivre la nôtre, quoi. C'est notre relation avec Dieu et c'est notre histoire aussi avec lui, quoi. C'est un message que j'ai particulièrement à cœur à beaucoup de niveaux, hein. Comme on disait tout à l'heure, moi je suis ingénieur du son, donc le domaine de l'oreille, ça me passionne. Et puis, mes parents ont décidé de m'appeler Samuel, et comme vous savez, Samuel, ça vient de l'hébreu Shmuel, et le Shmuel, ça vient de Shma, qui en hébreu, c'est le verbe qui veut dire justement écouter. Et ce verbe Shma, il est intéressant parce qu'il veut dire à la fois écouter, et il veut dire à la fois obéir. C'est le même mot en fait qui est utilisé en hébreu. Nous, on fait la différence entre le moment où on écoute et le moment où on met en pratique ce qu'on a écouté. Mais en fait, dans l'hébreu, les deux choses sont reliées. Et je crois que c'est quelque chose qui est vrai aussi pour nous. C'est-à-dire que jamais en fait notre écoute a été faite pour être séparée d'une réaction et d'une action concrète en fait dans notre vie. Et ça répond peut-être un petit peu à ce dilemme entre Marthe et Marie et tout, qui une qui écoute et puis l'autre qui fait plein de choses. Finalement, dans la pensée biblique et dans le désir de Dieu pour nous, cette écoute au pied de Jésus de Marie, en fait, elle est suivie d'une conséquence, elle est suivie d'une mise en action qui est pas basée sur un légalisme ou sur un dire ah, il faut que j'obéisse, il faut que je mette en pratique, mais qui est la conséquence logique en fait de cette relation. Plus on aime quelqu'un et plus on a envie en fait de lui plaire, plus on a envie de lui faire plaisir, plus on a envie d'être attentif et plus on a envie de réjouir en fait le cœur de l'autre personne. Puis avec Dieu c'est pareil, c'est-à-dire que on veut écouter Dieu parce qu'on l'aime, qu'on veut être attentif à ce qui est important pour lui. Et du coup si on est attentif à ce qui est important pour lui, ça va être la conséquence logique dans notre cœur de vouloir mettre en pratique ce qu'il va nous communiquer, ce qu'il va nous dire. Dans 1 Samuel au chapitre 15 au verset 22, c'est Samuel justement qui parle et qui dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et Jacques va nous secouer un petit peu en disant mais vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant juste d'écouter la parole de Dieu, mais mettez-la réellement en pratique. Et souvent quand Dieu va nous parler, ça va susciter une réaction, ça va nous mettre en position de faire quelque chose. J'aime bien me rappeler en fait cet épisode où Pierre va sortir de la barque, vous savez, où il va dire mais si c'est toi, dis-moi de venir à Jésus. Jésus va lui dire ben vas-y, viens. Et là en fait il y a ce moment où Pierre en fait a entendu la voix de Jésus et là il doit répondre, il a quelque chose à faire, il doit faire ce pas en fait qu'il fait sortir de la barque et marcher sur l'eau. Et finalement on peut se dire que quand Pierre va marcher sur l'eau, il va pas tellement marcher sur de l'eau liquide, il va surtout marcher sur la parole de Jésus. Et comme on disait tout à l'heure, c'est une parole qui est solide. Nos oreilles, en fait, elles ont cette capacité impressionnante puisqu'elles travaillent hein, avec notre cerveau. Donc nos oreilles envoient des informations à notre cerveau et notre cerveau ensuite a la capacité de trier ces informations et de faire des choses avec. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'être dans une salle, dans une réception ou quelque chose où il y a beaucoup de conversations qui... Et voilà, vous êtes là avec votre cocktail à la main. Et puis votre... voilà, vous avez envie de savoir, par exemple, la conversation là-bas, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Et en fait, votre cerveau va faire ce travail de baisser artificiellement en fait les conversations qui sont autour pour vous permettre de vous concentrer sur celles que vous voulez entendre plus. C'est pas que les gens vont parler moins fort et non, c'est votre cerveau en fait qui va réussir à isoler en fait la source sonore que vous voulez entendre mieux, de manière à pouvoir comprendre en fait ce qui se dit à cet endroit-là, même s'il y a du bruit de fond autour, quoi. En fait, avec Dieu, c'est pareil. Peut-être que une des choses pour lesquelles on l'entend pas, c'est parce qu'il y a beaucoup de conversations en fait qui se passent autour, parce qu'il y a beaucoup de sollicitations en fait qui essaient d'avoir notre attention. Peut-être que une des choses qu'on peut faire, ce que notre cerveau fait avec nos oreilles. Peut-être que nous, on peut le faire à l'intérieur aussi, de dire, ben, je veux baisser le niveau sonore, en fait, des autres sollicitations. Je veux enlever le bruit ambiant et je veux me concentrer, en fait, sur ce que Dieu est en train d'essayer de me dire. Le bruit ambiant, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être mes pensées. Ça peut être mes émotions. Ça peut être, des fois, mes amis, mes connaissances, ce que les autres me disent sur moi. Ça peut être, des fois, juste mon modèle d'éducation, là où j'ai grandi, le milieu dans lequel j'ai grandi, j'ai évolué. Ça peut être ma famille, ça peut être les choses que je mets dans mon cœur, ça peut être les films que je regarde, la musique que j'écoute, les livres que je lis. Toutes ces choses, en fait, c'est comme plein de conversations, plein de choses qui essaient d'avoir mon attention. C'est pas toujours des choses mauvaises d'ailleurs, hein. C'est juste que ça fait beaucoup de sources sonores différentes. Si j'ai envie de pouvoir me concentrer sur ce que Dieu dit, eh ben il faut que j'apprenne à baisser le volume et à me concentrer sur Dieu. Et pour conclure, quelques étapes qu'on pourrait mettre en pratique simplement pour apprendre à développer cette écoute de la voix de Dieu. Une des premières choses qu'on peut faire, c'est déjà de prendre le temps de s'arrêter. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'habitude de vivre ma vie un peu à 100 à l'heure, de sauter d'un truc à l'autre, et puis d'enchaîner un petit peu les événements. Des fois, ça demande pas forcément beaucoup de temps, et ça demande juste une inclinaison du cœur de dire là, stop, je m'arrête, même si c'est juste quelques minutes, je fais silence et je m'arrête, quoi. Comme le dit le psaume 46 au verset 10, c'est arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. L'étape numéro 2, ce serait se soumettre à Dieu, remettre les choses dans le bon alignement, dire Seigneur, c'est toi la personne importante dans ma vie, et je veux t'écouter. En 3, on disait tout à l'heure, le péché c'est un obstacle entre Dieu et nous, donc si j'ai des péchés ou des choses qui sont conscientes dans ma vie, des choses que je sais qui sont un obstacle entre Dieu et moi, toute occasion est la bonne occasion pour les laisser. Le plus tôt possible, dès que je peux. Donc si le Saint-Esprit vient, l'idée c'est pas de faire une introspection complète de tout ce qui se passe à l'intérieur, mais si le Saint-Esprit met le point sur quelque chose qui a un blocage ou qui me sépare de Dieu, va pouvoir simplement le demander pardon et puis l'abandonner à la croix. Et la Bible nous dit hein, qu'il est fidèle et juste si nous confessons nos péchés pour nous pardonner. Dans la multitude de sollicitations qu'on peut avoir, des fois il y a le diable aussi, l'ennemi qui essaie de s'introduire un petit peu dans nos pensées, de mettre des parasites un petit peu dans notre réception. Et la Bible nous donne un modèle simple dans Jacques au chapitre 4 verset 7, elle dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi, de dire je ferme cette fréquence-là. Nos pensées, des fois, ça peut être vraiment beaucoup, voilà, ça peut tourner dans notre tête et puis ça peut faire beaucoup de brouhaha. Mais la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 5 qu'on peut faire taire ses propres pensées. On peut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et on a autorité sur nos pensées en tant qu'enfant de Dieu. Une fois que ça commence à être plus calme, on peut simplement inviter le Saint-Esprit, cette présence de Dieu à l'intérieur de nous, et lui dire, ben maintenant, je suis disponible. Parle-moi. Et puis le dernier point, c'est peut-être Dieu va nous parler tout de suite. Peut-être que ça va arriver après, dans quelques minutes. Moi, ça m'arrive souvent de poser une question à Dieu, puis que le Seigneur me donne la réponse quelques heures ou quelques jours, ou plus tard, à un autre moment. Mais c'est important de s'attendre à Dieu, de dire, ben, j'ai demandé à Dieu de me parler, il va le faire. Peut-être je vais conclure par la prière. Seigneur, c'est toi qui nous as donné des oreilles physiques, et on priait tout à l'heure que tu puisses ouvrir nos oreilles, on veut prier pour les oreilles de nos cœurs aussi, que tu puisses enlever, Seigneur, tout ce qui a pu s'accumuler dans les oreilles de nos cœurs. Tout ce qui peut nous rendre des fois sourds à ta parole, sourds à ce que tu essaies de nous dire dans la vie de tous les jours, dans les temps qu'on prend avec toi, dans simplement notre marche quotidienne, dans notre travail, dans notre vie de famille, dans nos relations amicales. Seigneur, tu es présent dans tous ces endroits et tu essaies de communiquer avec nous. Seigneur, on veut se rendre disponible pour t'écouter. On veut être pas juste ces Martes du coup qui vont remplir leur agenda, remplir leur temps, même si ça part d'un bon sentiment, qu'on a envie que tu sois honoré, que tu sois reçu du mieux possible, Seigneur, on veut prendre la bonne part. On veut choisir d'être comme Marie, de se tenir à tes pieds et d'écouter ta parole. Seigneur, on veut pas être juste des chrétiens qui sont connus pour faire beaucoup de choses. Et on veut pas être juste des chrétiens qui connaissent des gens, qui connaissent des gens, qui connaissent Dieu. On veut, Seigneur, te connaître personnellement. On veut qu'il y ait une relation qui s'installe entre nous et toi, directement. Alors Seigneur, viens ouvrir les oreilles de nos cœurs. Viens Seigneur, dans les jours qui viennent, parler à nos cœurs. On veut sortir les antennes, Seigneur. On veut mettre notre radio sur on. On veut chercher à capter ta fréquence à toi, Seigneur. Viens rendre nos cœurs dociles, Seigneur. Viens les rendre attentifs. Et au fur et à mesure que nous exerçons, Seigneur, à écouter ta parole, que nous puissions gagner en clarté, en compréhension de ton amour, de ta sagesse, et que ça puisse devenir le trésor de nos vies. Comme tu le disais dans ce chapitre de Luc, une seule chose est nécessaire, Seigneur, c'est cette chose que nous voulons. Nous voulons t'écouter, nous voulons écouter ta parole. Et nous voulons la mettre en pratique, nous voulons t'obéir. Sois béni éternel. Amen.